9h-11h, Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question et on va recevoir ce matin 2 citoyens, 2 représentants d'une forme d'écologie du quotidien qui démontre que chaque engagement personnel est important pour la planète. Une forme d'éthique liée aux animaux, liée à l'environnement. Aymeric Caron annonce la création d'une télé, Komodo TV, une télé sur le net dédiée à ces questions dans quelques jours. Julie Bernier est blogueuse et publie un manuel aux éditions Solar, Zéro déchet, le manuel d'écologie du quotidien. Nous pouvons toutes et tous s'y retrouver. Est-ce pour vous cela, la politique de demain? Vous n'hésitez pas, le standard est ouvert, Julie.
Le 39-21, 50 centimes la minute.
Et puis à 10h, on s'intéresse à une pathologie de la personnalité, un terme souvent galvaudé, mais on revient à son sens même. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Une personnalité toxique au comportement teinté de sadisme, on en parle davantage qu'avant peut-être, parce qu'on diagnostique aussi mieux ces personnes. Ne sont-elles plus nombreuses? Quel traitement, le cas échéant? On vous donne là aussi la parole sur les réseaux sociaux également. Voici le sommaire jusqu'à 11h ce matin.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et nos invités pour faire sa part et pour changer un peu nos modes de vie, nos modes d'alimentation, notre manière d'être au monde finalement. Bonjour Aymeric Caron.
Bonjour Wendy.
Et merci d'être avec nous dans ces locaux que vous connaissez bien. Vous qui annoncez la création le 3 juin prochain de Komodo TV. C'est une nouvelle web TV consacrée à l'antispécisme. On va parler exactement de ce terme aussi, antispéciste. Et je vous présente Julie Bernier. Je ne sais pas si vous connaissez cette demoiselle qui a 23 ans, mais qui est déjà extrêmement engagée. Bonjour Julie.
Bonjour.
Comment vous vous définissez d'ailleurs, vous, influenceuse, conseillère en environnement, blogueuse, citoyenne avant tout?
Je suis conférencière et conseillère en zéro déchet.
Oui, d'accord.
C'est ce que je fais au quotidien. Influenceuse, on est un peu tous l'influenceur de ses pairs, donc on peut tous porter un bon message au quotidien.
Eh ben, vous nous direz aussi ce que vous pouvez faire, vous, au quotidien. Le standard est ouvert au 39-21. Aymeric Caron, vous êtes citoyen, journaliste, auteur, et vous parlez de plus en plus, depuis une dizaine d'années maintenant, du respect du vivant, de la défense des animaux, dans une démarche finalement très politique, au sens d'être dans la cité, vraiment.
Oui, de toute façon, l'homme est un animal politique, donc chacun est un animal politique, hein, on le sait depuis Aristote. Donc je pense que nous sommes tous, par nos gestes quotidiens, par nos actes, par nos manières de nous comporter avec l'autre au quotidien, nous sommes tous dans une démarche politique. Pas seulement d'ailleurs quand on est confronté à notre manière de consommer, par exemple, ce dont on va parler ce matin, c'est-à-dire quels sont les produits qu'on consomme, est-ce qu'on respecte ou pas les animaux, etc. Mais même dans notre manière de gérer nos relations professionnelles et personnelles, par exemple. Tout est politique.
Antispéciste, ça veut dire quoi? On considère que l'homme n'est pas supérieur à l'animal en soi et que les Absolument. Espèces doivent cohabiter, se coordonner de manière harmonieuse?
Elles sont censées cohabiter, de toute façon. La nature fait que les espèces, en principe, cohabitent dans ce qu'on appelle des écosystèmes. L'antispécisme, c'est le refus du spécisme. Et le spécisme, c'est un système de pensée qui est dominant aujourd'hui, qui est celui de la majorité des humains, et qui consiste à considérer que nous devrions faire un tri parmi les espèces pour, de manière complètement arbitraire, déterminer que certaines des espèces méritent notre respect et d'autres absolument pas, alors qu'elles ont pourtant, ces espèces, les mêmes caractéristiques d'intelligence et de sensibilité. C'est par exemple le fait de dire « je vais extrêmement bien traiter mon chien ou mon chat, celui avec lequel je pars en vacances, celui que je promène le dimanche, celui que j'emmène chez le vétérinaire ». Celui que je vais peut-être enterrer, enfin voilà, celui pour lequel je vais peut-être contracter une assurance s'il est malade. Et puis que par ailleurs, par exemple un mouton, une vache, un veau, qui ont pourtant exactement les mêmes capacités à éprouver de la douleur, qui pourtant sont des animaux sociaux, pourtant sont des animaux qui peuvent être tristes, gays, qui aiment jouer exactement comme votre chien, ben, ces animaux-là, on va les traiter comme des objets pour notamment les manger. Ça, c'est du spécisme. Le spécisme, c'est également considérer que de toute façon, l'être humain serait supérieur à toutes les autres espèces animales sur Terre et que donc, ça lui conférerait un certain nombre de droits sur toutes ces espèces et notamment le droit de les dominer, de leur faire subir absolument ce qu'elle veut.
Les antispécistes,
les antispécistes combattent donc cette vision des choses.
Et on peut être antispéciste et manger de la viande quand même, Aymeric Caron?
Ce serait assez contradictoire. On peut tout à fait, pourquoi pas, y être amené dans des circonstances très particulières. un antispéciste, par exemple, qui serait abandonné sur une île ou dont l'avion s'écraserait quelque part et qui tout à coup serait confronté à la question de sa propre survie, en n'ayant absolument pas le choix. Et se dire, est-ce que là, il y a un animal, je peux le tuer, je peux survivre, pourquoi pas? Je pense que des antispécistes pourraient s'autoriser, dans ce cas précis, d'urgence absolue, à aller manger un animal. En revanche, un antispéciste logique et cohérent, dans notre mode de vie actuel, ne va pas manger d'animaux, puisque nous avons absolument tout ce qu'il nous faut dans les végétaux pour vivre en parfaite santé.
Oui, c'est la philosophie que vous avez choisie, vous l'aviez bien
indiqué. On est nombreux à l'avoir choisi.
Oui. Nos steaks, notamment cet ouvrage, Vivant également, autre ouvrage tout récemment publié aux éditions Flammarion, Émeric Caron. Julie Bernier, vous êtes, vous, anti-spéciste aussi? Est-ce que vous êtes végétarienne? Comment vous avez adapté aussi votre mode d'alimentation à la philosophie que vous promouvez aujourd'hui?
De façon très transparente, je pense que je suis végétalienne 95% du temps. Après, sur certaines habitudes de vie au niveau social, parfois c'est assez compliqué. Je fais le choix parfois de me laisser aller à une pizza. Dans moi, ma dynamique de zéro déchet, de protection de l'environnement, pour moi c'est l'antispécisme, le végétalisme va de pair avec un engagement pour l'environnement. Quand nous, dans la démarche zéro déchet, typiquement la réduction du plastique, ça va permettre de protéger les animaux aussi, notamment les animaux marins qui souffrent beaucoup de ce fléau-là. Je crois qu'il y a 1,6 million d'animaux marins qui meurent chaque année au minimum du fait de la présence de plastique dans les océans. On a tous vu sur Internet une paille finir dans le nez d'une tortue.
Ce sont ces images-là qui vous ont engagé aussi, et un certain nombre de chiffres. On recevait à votre place, il y a quelques semaines, Hugo Clément, qui nous expliquait comment il avait fini par arrêter de manger des animaux en se fondant de manière assez empirique et pragmatique sur des constats très chiffrés. Par exemple, la pollution liée à l'élevage intensif.
Moi, les chiffres me parlent beaucoup parce que autant on peut donner son avis et chacun peut avoir un avis divergent, autant les chiffres, les faits, sont difficilement...
Contestables.
Exactement, contestables.
C'est aussi la démarche journalistique que vous avez adoptée, Émeric Caron. 3 millions d'animaux abattus chaque jour en France, 70% de la surface agricole mondiale monopolisée par l'élevage, c'est ça aussi?
Oui, c'est le biais que j'avais choisi des Nostec qui datent maintenant de quelques années. En effet, c'était de partir de faits, de constats, et puis d'en tirer des conclusions et des conséquences. Et d'ailleurs, c'est toujours la démarche que j'essaie d'avoir lorsqu'on m'invite à parler de ces sujets. C'est d'abord donner au public des informations pour permettre ensuite aux personnes de se faire leur propre avis, de prendre leurs propres décisions par rapport à ces informations-là.
Oui, pour être dans le constat et pas simplement dans le... ou uniquement...
Et c'est un fait. Et
pardon, dans le prosélytisme.
Absolument. En plus, chacun peut faire le chemin à sa propre vitesse. C'est-à-dire que je pense que quand aujourd'hui on est dans la démarche qui est la nôtre, qui est d'essayer de convaincre, c'est vrai, il faut le dire, en tout cas, de l'urgence aujourd'hui à respecter le vivant dans son ensemble, et d'essayer de trouver les solutions pour le faire. Il faut aussi avoir conscience qu'en face de nous, on a des gens qui ont tous leur propre histoire, leur propre culture, et que chacun met à son propre tempo pour réaliser sa transition éventuelle vers un autre mode de vie.
Est-ce que c'est un luxe, justement, aujourd'hui, d'adopter ce nouveau mode de vie?
Je ne le pense pas.
Moi, je pense le contraire même.
En fait, c'est un dépouillement au contraire.
Moi, je pense que le tout, dans tout cas du livre que j'ai essayé que j'ai écrit, c'est de montrer que l'écologie, c'est pas du tout bourgeois. Au contraire, moi, depuis que je suis dans la démarche, je pense que j'ai réduit mes dépenses d'au minimum 30%. Parce que
en faisant vos produits,
en fait, en déconsommant, en se détachant de la surconsommation, etc. Évidemment, quand on n'achète pas, on dépense pas. Et par rapport à tout ce qui va être nourriture végétale, je vous invite à comparer, je sais pas, un kilo de lentilles bio par rapport à un kilo de bœuf bio. On est quand même assez loin. Et dans la démarche aussi zéro déchet, on a beaucoup de fait maison. Et quand on refait ce lien à la nature, on va acheter vraiment uniquement des produits bruts, donc des fruits, des légumes, des graines, etc., et qu'on fabrique nous-mêmes. Effectivement, c'est beaucoup d'économies à la clé.
Donc c'est pas du luxe, c'est du bon sens.
Oui.
Émeric Caron, vous le pensez aussi?
Oui, je partage tout à fait cette vision. Il faut reconnaître que, bien évidemment, ça peut avoir un coût sur un certain nombre de points. Si on veut vraiment être écologiste jusqu'au bout, en tout cas le plus possible, par exemple, en effet, on va essayer de manger des légumes bio. Les légumes bio, c'est beaucoup plus cher que les légumes du supermarché, il faut quand même le dire très concrètement.
C'est pour ça que vous récupérez les épluchures.
Voilà.
faire de la soupe.
Si on veut, par exemple, acheter des chaussures véganes, il faut aussi le dire que, en tout cas, moi, les sites que je connais, c'est cher.
Mais pas forcément plus qu'une paire de chaussures de marque.
Ah oui, de grandes marques, oui, d'accord.
Non, mais il faut dire la vérité aussi sur l'accessibilité.
Non, mais de grandes marques, certes, mais voilà, on peut avoir des solutions aujourd'hui quand même assez low cost pour trouver des chaussures en cuir. C'est plus compliqué sur la mode vegan, par exemple, pour l'instant, puisque c'est normal. C'est une mode en émergence. Donc un jour, tout cela va se démocratiser.
C'est une mode ? Que vous employez
quand je disais le mode, je voulais parler par là des aspects vestimentaires, etc.
Mais on est dans une tendance aujourd'hui.
C'est plus qu'une tendance. Quand j'ai écrit Nostec et qui commence à remonter à presque 10 ans maintenant, et qu'on commençait à parler de végétarisme en France, puisque la France est un pays quand même assez retardataire sur la question. Effectivement, on me posait la question de savoir si c'était une mode. Aujourd'hui, on voit bien que la tendance, elle est très forte, qu'il y a un vrai mouvement dans la population de prise de conscience de notre obligation morale aujourd'hui à respecter les animaux non humains et la planète dans son ensemble. Et je pense que non, on n'est pas dans une mode, on est simplement dans une vraie transition idéologique.
Et vous voulez re-questionner notre place, y compris nos manières de consommer, vis-à-vis des formes de vivant, justement. On en parle avec vous, Émeric Caron, avec Julie Bernier. On va évoquer cette télé que vous portez, Komodo TV, une nouvelle web télé consacrée à l'antispécisme et au vivant, qui sera en ligne à partir du 3 juin prochain, Émeric Caron, et qui nous donne aussi l'occasion de vous inviter. Ce matin, Jean-Michel est déjà en standard pour converser, échanger avec vous. Dites-nous comment vous avez tenté d'amorcer un changement pour améliorer aussi votre rapport au vivant, aussi au quotidien. Tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question sur les nouvelles formes de combat pour changer le monde. On est avec Wendy Bouchard et ses invités.
Avec Julie Bernier, qui est conférencière, blogueuse, auteure de Zéro déchet, le manuel d'écologie quotidienne, paru la semaine dernière aux éditions Solar, pour nous permettre, de manière simple et pratique, c'est à l'usage de tous, de réduire notre consommation et de changer de mode d'alimentation pour être plus en phase, justement, avec notre biodiversité et le respect du vivant sous toutes ses formes. C'est ce que vous allez mettre en avant dans votre nouvelle chaîne sur le web, Komodo TV, Émeric Caron, vous le journaliste qui êtes avec nous aujourd'hui, auteur de Vivant aux éditions Flammarion. Komodo, c'est quoi ?
Komodo, c'est une île déjà.
Oui.
C'est une île en Indonésie qui abrite notamment une espèce de gros lézard qu'on appelle le varan de Komodo, qui est un animal qui est très vieux, très vieux, qui est beaucoup plus vieux que l'homme, puisqu'il est apparu il y a à peu près 70 millions d'années, donc à l'époque des dinosaures. Et ça nous paraissait très intéressant de donner ce nom à la chaîne parce que c'est un nom très symbolique. C'est une réserve naturelle protégée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il y a une information qui nous a donné envie d'appeler la chaîne comme ça, c'est que le gouvernement indonésien a décidé de fermer très prochainement cette île pendant un an au public pour la protéger justement de l'impact de l'homme. Puisque c'est une grande réserve de faune et de flore. Et le gouvernement a constaté qu'il commençait à y avoir des dégradations, des espèces abîmées. Et donc, pour la protéger de l'influence humaine, pendant un an, ce sera fermé. Et je trouvais que symboliquement, c'était très fort. Et voilà, dans ce nom, qui en plus est un très beau nom.
Voilà. Fermer une île au public et ouvrir une chaîne, voilà, pour parler du vivant. Je suis très étonnée, cela dit, que ça ne soit pas sur une chaîne du service public. France 2 ou France 3, ça avait toute sa place pourtant, non ?
Ça a toute sa place, ce sujet a toute sa place, en tout cas, sur le service public, bien évidemment. C'est un sujet qui concerne absolument tout le monde.
Mais les patrons n'ont pas voulu.
Alors, j'avais tenté à l'époque où j'étais encore moi-même à la télévision et que je savais que j'allais quitter On n'est pas couché, que je pensais à ma reconversion, si je puis dire. J'avais ce projet qui me trottait en tête depuis assez longtemps et donc j'avais commencé à démarcher certaines chaînes, à France Télé d'ailleurs. Et il y avait un intérêt de la direction de France Télé pour avoir un programme consacré au vivant, c'est-à-dire exactement sur les sujets qu'on va traiter sur Komodo. Mais il se trouve que voilà, c'est le monde médiatique, la direction de France Télé a changé à l'époque.
Oui.
C'était Thierry Tuilier qui, à l'époque, dirigeait, me semble-t-il, France 2.
Et qui est sur TF1 aujourd'hui.
Ouais, et qui était intéressé par ce programme. Mais ensuite, tout a changé. Moi, je suis passé à autre chose aussi. J'ai écrit des livres. Mmh. Et puis, tout à coup, cette idée m'est ressurgie et elle a surgi également en même temps dans la tête de Stéphane Simon, le producteur, bien connu.
De Thierry Ardisson.
De Thierry Ardisson notamment. Et Stéphane et moi, on a eu envie ensemble, au même moment, de refaire naître, enfin de faire naître plutôt cette idée. Et on a décidé de la promouvoir sur le net parce qu'on y a une totale liberté.
Avec des reportages, avec des mises en avant d'actions de fondations de défense des animaux.
Oui, c'était très important pour nous d'associer toutes les associations, justement, tous les acteurs de terrain qui se battent au quotidien pour la défense de la faune et de la flore. Donc on aura aussi bien la Fondation Brigitte Brigitte Bardot, que L214, que PETA, que, enfin, je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais enfin, il y a une dizaine, une quinzaine comme ça d'associations dont on retrouvera le travail sur notre antenne. Il y aura évidemment des éditos, il y aura des questions-réponses, parce que je reçois beaucoup de questions souvent par rapport au livre que j'ai écrit, des questions parfois très pratiques. Il y aura aussi du mode de vie, comment on fait pour justement, c'est des questions qui intéressent Julie, comment on fait pour vivre au quotidien lorsqu'on veut protéger le vivant, être végane, qu'est-ce qu'on mange, comment on s'habille, etc. Il y aura par exemple aussi l'actualité des océans, c'est très important puisque l'océan c'est quand même aujourd'hui ce qui nous fait vivre et que les océans sont extrêmement menacés dans l'indifférence quasi générale.
Donc on aura, vous serez dans un échange aussi avec
la MSM Sally de Sea Shepherd qui nous livrera des chroniques quotidiennes là-dessus. Enfin, ouais, on va essayer vraiment de couvrir tous les aspects, on recevra des philosophes, des scientifiques, des gens qui vont permettre de mieux comprendre le vivant et de nous tenir au courant de son actualité.
On en verra le but ultime au-delà de la sensibilisation, comme nous le faisons d'ailleurs assez régulièrement dans le tour de la question sur Europe 1. Julie Bernier, on parlait du mode d'alimentation et on va y revenir avec la question de Jean-Michel dans un instant. Sachant qu'en France, la consommation de viande a baissé de 12% en 10 ans. C'est beaucoup, mais c'est peu à l'échelle du prisme des véganes ou des végétaliens. Le monde de demain ne sera pas végétarien. Alors, il y a des moyens pour vous de se sentir plus en phase justement avec le respect animal. Et par exemple, de choisir des modes d'alimentation bio avec beaucoup de récupération, beaucoup de recyclage. Je parlais des épluchures tout à l'heure, on est aussi là-dedans.
Oui,
le zéro
oui,
déchet aussi alimentaire,
oui.
Bien sûr.
Oui, oui, effectivement. En fait, le zéro déchet, il s'applique vraiment à tout. C'est ça qui est beau. Dans le livre, on...
Du vêtement.
Exactement. En fait, dans le livre, d'hygiène. On parle à la fois de nos modes d'alimentation, mais aussi de l'impact des produits qu'on a dans notre salle de bain, des vêtements, l'industrie de la mode étant la deuxième la plus polluante du monde.
Oui.
On parle de la vie quotidienne, on parle des voyages. Là, ça touche. Oui, à l'avion, évidemment.
Mais pas que. Carbone.
Exactement. Oui. On parle aussi des fêtes. L'impact d'une fête de Noël, typiquement, ou de Pâques. Et là, Pâques, même au niveau végétalisme, on pourrait en parler longuement. Le zéro déchet s'applique vraiment à tout. À savoir que, de façon très concrète, toute cette démarche, elle est résumée en 5 piliers, donc de manière très simple comme pour simplifier en fait. Réduire, donc c'est-à-dire vraiment réduire notre consommation au quotidien, se détacher de la publicité et de la croissance infinie dans un monde fini, en fait, tout simplement. Donc du modèle capitalisme malgré tout.
Donc vous êtes dans un schéma de décroissance aussi.
Exactement.
Pas tous, hein, mais vous en tout cas, oui.
Oui, oui, la démarche zéro déchet l'est vraiment fondamentalement.
Oui.
Si je peux me permettre, tous les écologistes aujourd'hui devraient être dans une logique de décroissance.
Bien sûr.
Ouais. Quelqu'un qui vient chez vous dire je suis écologiste et qui continue à prôner un modèle productiviste et un modèle de croissance, ouais, se trompe complètement. Enfin,
mais comment on prône un modèle de décroissance dans un pays où on a 3 millions de chômeurs? C'est ça qu'on voudrait résoudre comme
problème. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse terriblement. On arrive au cœur du problème.
Ouais.
Eh bien, c'est inventer un nouveau modèle de société où on repense complètement. C'est-à-dire que l'écologie, ça n'est pas que la défense de la faune et de la flore, telle qu'on en parle depuis tout à l'heure, ce qui est déjà extrêmement important, bien évidemment, mais c'est repenser aussi complètement notre modèle politique, c'est-à-dire revoir notre vision au travail. C'est-à-dire, par exemple, là, ce dont on entend parler ce matin, là, j'entendais les informations, par exemple, l'annonce de Macron qu'on attend, dans laquelle il dit qu'il va peut-être demander aux Français de travailler plus. Hein, on revient, c'est toujours le même truc depuis Sarkozy. C'est mais complètement à rebours du bon sens dans une société justement où on n'a pas assez de travail pour tout le monde, où l'informatique ou la robotisation vont enlever de plus en plus d'emplois et ça, toutes les études sérieuses nous le disent, hein, l'emploi va être détruit au moins à 20, 30, 40, voire 50% dans les 20 années qui viennent selon les pays.
C'est génial que les 35 heures avaient ce but affiché et que c'est pas tout à fait ce qui s'est produit.
Les 35 heures ont bien fonctionné, même s'il y a une désinformation sur ce sujet. Donc la seule logique aujourd'hui qui peut nous permettre de reconstruire une société à peu près sereine dans le monde du travail, en tout cas, c'est de partager le travail, de diminuer le temps de travail.
Le système de décroissance, c'est pas un système de chômage. C'est vraiment une économie de plein emploi, mais où on travaille moins.
C'est intéressant parce que du coup, vous avez vraiment un discours politique et on va y venir justement, hein, au-delà en effet des gestes du quotidien et au-delà de ce que pourront nous dire Jean-Michel et Anne-Lise sur votre rapport à l'alimentation. On fait le tour de la question et jusqu'à 10h, on a le temps d'en parler avec vous. À tout de suite, chers amis, et vos appels, Julie, sur les réseaux sociaux aussi, on peut tout relayer.
Oui, 39, 21. Ça, c'est le standard, mais les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag
Europe 1. Merci, c'est le 49.3.
D'accord.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous parlons du respect du vivant et de la planète avec Wendy Bouchard jusqu'à 10h.
Avec de nouvelles formes de combat pour changer le monde, une télé par exemple, Komodo TV, une nouvelle web TV à partir du 3 juin consacrée au vivant sous toutes ses formes et mise en place par Émeric Caron qui est notre invité journaliste ce matin et auteur. Et Julie Bernier est avec nous, blogueuse, auteure de Zéro Déchet, manuel d'écologie quotidienne. Ils nous prouvent l'un et l'autre que leur approche est aussi politique. Nous avons un message de Thibault sur le hashtag Europe 1. La volonté de consommer mieux et de façon plus respectueuse est un enjeu majeur, mais doit-on forcément se diriger vers des tendances comme le véganisme, le flexitarisme, moins de viande, ne serait-il pas déjà une tendance pertinente, Émeric Caron ?
Si, si, c'est une tendance très pertinente, je le confirme. Mais simplement, ensuite, le véganisme est une cohérence. C'est-à-dire que le flexitarisme peut se comprendre d'abord dans une démarche de transition, tout simplement, avant d'arriver au véganisme, parce que c'est pas simple, faut le reconnaître, hein, et il faut complètement changer ses habitudes alimentaires, et comme en plus nos papilles gustatives sont conditionnées, ben il faut du temps aussi pour apprendre à se passer de certains aliments qu'on aimait bien. Ça, c'est la première chose. Et après, certaines personnes vont devenir flexitariennes par souci de la planète, par exemple, en disant, j'ai bien compris que consommer beaucoup de viande, ça polluait énormément. Ce sont des chiffres qu'on connaît maintenant par cœur, 15% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'élevage, par exemple, les trois quarts des surfaces agricoles dans le monde qui sont utilisées uniquement pour la viande, la pollution de l'eau, enfin voilà, donc tout ça par les nitrates, etc. Donc tout ça, on le connaît. Donc des gens vont se dire, moi je veux aider la planète, donc je vais manger moins de viande, ce qui est déjà...
Je fais ma part.
Ouais. Le véganisme, ça va encore plus loin dans la démarche intellectuelle, c'est vraiment interroger notre rapport aux autres animaux, puisque je pars toujours du principe que nous sommes nous-mêmes humains animaux, donc aux animaux non humains. Et quand on va au bout de la réflexion et de la logique, antispéciste, eh bien on est obligé de relever nos incohérences dans notre manière de nous comporter avec les animaux. C'est ce que je citais en introduction dans notre relation aux cochons, par exemple, et celle que l'on entretient par ailleurs avec nos chiens.
Et
donc si on est cohérent, on se dit, mais il n'y a aucune raison que je continue à manger ce cochon. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on arrête complètement d'en manger.
Anne-Lise, vous êtes avec nous au 39-21. Bonjour à vous.
Oui, bonjour. Voilà, je voulais d'abord vous remercier pour avoir choisi ce thème d'émission, parce que il est vrai que moi, je connais pas beaucoup de choses sur l'antispécisme et que je me pose des questions par rapport à ce que je viens d'entendre.
Alors, oui.
Peut-être que mes questions vont paraître naïves, donc deux éminents interlocuteurs.
Il n'y a pas de mauvaise question, Anne-Lise. On vous écoute.
Alors, voilà, l'antispécisme, j'ai bien compris ce que c'était, mais je voudrais savoir quelles sont les limites de ce concept, si vous voulez, parce que, si j'entends bien, peut-être je me trompe, hein, l'antispécisme, c'est la limitation ou la suppression de la consommation de viande, entre autres, et le respect de toutes les espèces. Mais dans un monde où, mettons, dans 50 ans, 100 ans, 1000 ans, si l'homme ne consomme plus d'animaux de toutes sortes, les animaux vont être amenés à vivre dans la nature et à se reproduire. Donc, il va y avoir peut-être une démographie animale galopante, comme la démographie humaine dans certaines zones. Donc, je voudrais savoir monsieur ici présent est capable d'anticiper cette évolution et de répondre à ma question.
Oui.
Que fera-t-on du surnombre animal ? On voit déjà en Inde, si vous voulez, les vaches qui sont les vaches sacrées, qui occupent l'espace, c'est un bon exemple. Hein. Et il y a des problèmes économiques liés à leur présence. Donc, quelles seront les retombées économiques d'un changement de modèle, admettons qu'on aille vers un monde antispéciste complet ?
Très bonne question, Anne-Lise. Eh bien, Émeric Caron, vous répond. Restez à l'antenne avec nous. Hein.
C'est vrai, c'est une excellente question, Anne-Lise, je le confirme. Vous avez raison, un monde vegan, antispéciste, sera un monde complètement différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, ne serait-ce que parce que le secteur financier, économique, lié à l'exploitation animale est absolument gigantesque. Rien que pour l'élevage, pensez donc, il y a 1 milliard 200 millions de personnes dans le monde qui vivent directement ou indirectement des métiers de l'élevage. Donc évidemment, ça demande de repenser complètement notre manière de vivre, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que lorsqu'on regarde par exemple l'agriculture française aujourd'hui, le système économique, c'est un système qui marche sur la tête, puisque les agriculteurs français, vous le savez, vivent extrêmement mal, les éleveurs en tout cas. Alors après, il y a des années variables, il y a également des secteurs variables, ça dépend, les céréaliers vivent souvent mieux que les éleveurs, etc. Mais en tout cas, les éleveurs, en tout cas chez nous, vivent extrêmement mal. Certains n'arrivent même pas à finir le mois. On sait que le taux de suicide est extrêmement élevé chez nos agriculteurs. Et en plus, c'est un système agricole qui est subventionné majoritairement par les fonds européens. Donc, on a quelque chose ici qui est complètement incohérent sur le plan économique. D'ailleurs, le citoyen paye plusieurs fois, puisqu'il paye à la fois pour financer l'Europe, puis il paye ensuite pour financer les dépollutions qui sont obligatoires en raison des manières de produire aujourd'hui des
produits. Mais une fois qu'on a dit ça, des votre transition, elle s'opère à quel horizon, quelle décennie?
Ah ça, j'en sais rien.
Oui, non, bah c'est, non, ça, c'est pour ça que c'est une question réaliste.
J'en sais rien, tout
quoi.
Simplement parce que ce sont des secteurs qu'on est en train de développer, d'explorer. Donc il faut que des économistes travaillent sur ce sujet pour commencer à élaborer des modèles dans lesquels on imaginera une société, en effet, dans laquelle les éleveurs, par exemple, seront convertis, soit dans des métiers de l'agriculture végétale. Il va y en avoir de plus en plus, fort logiquement, si l'humanité commence à devenir de plus en plus végétarienne ou végane, soit carrément dans d'autres métiers, parce qu'on sait qu'il y a des agriculteurs qui rêveraient d'ailleurs de changer complètement de travail.
Oui, le fait est que la réalité, c'est quoi? C'est que le bio, c'est 3% de la surface agricole aujourd'hui?
Oui, c'est très très peu.
C'est très peu.
Très très peu.
Donc
attendez, parce que bio et végane, c'est encore autre chose. Oui. Mais ça, c'est le premier point. D'autre part, en ce qui concerne les animaux, il faut savoir que qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va faire pour cohabiter avec eux, etc. D'abord, il faut savoir que la plupart des animaux qui vivent aujourd'hui sur cette planète sont des animaux que nous produisons pour les manger ou pour se servir de leur peau, de leur fourrure. Vous savez que sur la biomasse, par exemple, des mammifères, la biomasse des mammifères sur la planète...
C'est pour ça qu'on a créé aussi différentes espèces. Hein. L'homme est aussi à l'origine de races, je veux dire.
Oui, c'est ça. L'homme a modifié un certain nombre.
Modifié les espèces en créant des races. Oui.
Voilà, exactement. Mais vous savez, sur la biomasse aujourd'hui des mammifères sur cette planète, 60% de cette biomasse, ce sont des animaux d'élevage. 36%, ce sont les humains. Et les 4 autres pourcents, ce sont des animaux sauvages. Mmh. Il n'y a plus que 4% sur la biomasse des mammifères sur cette planète, 4% d'animaux sauvages. Donc, vous voyez, 60% de mammifères qu'on utilise, nous, pour notre alimentation, qui n'existeraient plus, tout simplement, ceux-là. Puisqu'on les produit, on les fait naître artificiellement pour être consommés. Donc déjà, on aurait ce problème du surnombre qui serait réglé, puisqu'on en produit
là,
de plus en plus.
Et en plus, là, on réfléchit de manière très occidentale, Émeric Caron, parce que dans un certain nombre de pays en développement, l'accès justement à ces biens, à ces denrées précieuses, notamment la viande, est un graal quasiment.
Oui, alors ça a été le cas longtemps, ça l'est de moins en moins parce qu'on sait que les pays émergents commencent à manger de plus en plus de viande. Mmh. C'est le cas de l'Inde par exemple, la Chine qui a très très peu mangé de viande pendant très longtemps. Aujourd'hui, les Chinois commencent à en manger de plus en plus, notamment parce que c'est un marqueur social que de consommer de la viande. Ensuite, pour terminer, parce que sinon ça va, je pourrais faire une heure sur ce sujet.
Alors on peut garder juste votre réponse après la
bien
pause
sûr, hein.
Je lance la pause, Anne-Lise, vous restez avec nous et vous pourrez échanger de nouveau avec Émeric. À tout de suite sur Europe 1.
Nous réfléchissons ce matin à notre rapport au vivant et au refus de considérer que l'homme a plus de droits que l'animal. Wendy Bouchard.
Nous sommes avec Julie Bernier, à laquelle je donne la parole dans un instant, qui publie « Zéro déchet, manuel d'écologie quotidienne » aux éditions Solar, et qui fait acte de cette écologie avec ses armes à elle. Voilà. Émeric Caron, vous poursuivez votre réponse à Anne-Lise, qui est avec nous, vous qui lancez le 3 juin prochain Komodo TV, une nouvelle web télé consacrée à l'antispécisme, à la nécessaire fin de catégorisation entre l'humain et les différentes espèces animales. Et Anne-Lise...
Si je puis me permettre, c'est pas tellement la fin de la catégorisation, parce qu'il y aura toujours le constat, tout simplement, que l'être humain n'est pas un animal comme les autres, au sens ce n'est pas un chien, ce n'est pas un cochon, le cochon n'est pas un poulet, le poulet n'est pas un scarabée.
Et l'animal
etc.
n'aura pas
c'est
toujours autant de droits que l'homme.
Les antispécistes demandent une égalité de considération pour tous les animaux sensibles. Mmh. Ça ne veut pas dire une égalité de traitement.
Oui.
C'est-à-dire tout simplement se dire que chaque animal qui souffre, qui éprouve un peu de joie, la tristesse, qui a des capacités à avoir des relations sociales avec ses congénères, etc. Eh bien, tous ces animaux-là doivent être traités dans le même respect de ses spécificités et ne pas considérer que certains d'entre eux devraient être négligés sur ces aspects-là. Voilà, c'est simple. Mais on ne les traite pas pareil.
Et vous avez contribué.
On ne veut pas donner le droit de vote aux vaches, par exemple.
Bien sûr. Mais vous avez contribué avec un certain nombre d'intellectuels, en tout cas, à faire avancer justement la considération sur les animaux dans le code civil, être doué de sensibilité. Ça doit avancer encore parce qu'un certain nombre d'animaux sont considérés
malheureusement
comme des
pas changé grand-chose,
biens meubles. Voilà. Mais pour votre réponse à Anne-Lise.
Oui, non, je veux juste terminer sur un point pour Anne-Lise.
À quoi ressemble une société antispéciste demain? Voilà. Demandez-le.
C'est une société, évidemment, je le disais, radicalement différente. Mais Anne-Lise nous interroger notamment sur la manière dont nous entretiendrions des relations avec tous les autres animaux libérés, puisque c'est ça, on parle bien de libération animale. Donc, comme je le disais juste avant la pause, il y a aujourd'hui de moins en moins d'animaux sauvages, hein. On le sait très bien, la biodiversité disparaît, les individus au sein de chaque espèce sont de moins en moins nombreux. On a tous les rapports, notamment du WWF, qui tombent chaque année, qui nous disent toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est, on a une diminution pour certaines
60%
espèces. Oui, 50, 60, 70% en 20, 30, 40, 50 ans de tout, des individus au sein de toutes les espèces sauvages. Donc c'est absolument une catastrophe. Bientôt, sur cette planète, si on ne réagit pas, les seuls animaux qui existeront encore seront nos animaux domestiques, les animaux de compagnie et les animaux d'élevage. Ce sera les seuls. Et puis les tout petits qu'on ne voit pas, donc qu'on ne peut pas tuer. Mais tous les animaux sauvages auront disparu dans quelques décennies si on ne réagit pas.
Mais
donc,
c'est un changement total
alors, ce qu'on
de
imagine, c'est une société,
de
les antispécistes, ouais. Ce qu'ils imaginent comme société, c'est une société de cohabitation avec toutes les autres espèces animales non humaines. La cohabitation, ça veut dire qu'on ne les laisse pas proliférer absolument partout et puis s'insérer dans nos maisons le soir ou rentrer dans nos immeubles. Ça ne veut pas dire ça parce que, je le dis souvent, l'être humain n'est pas supérieur aux autres espèces animales. En revanche, il faut reconnaître que l'humain est l'espèce aujourd'hui dominante sur les autres. Cette capacité à pouvoir décider de la vie et de la mort de tout ce qui existe sur cette planète, confère à l'être humain aujourd'hui une responsabilité particulière. Mmh. Cette responsabilité, c'est celle de prendre soin de tout ce qui l'entoure. Et donc, j'aime cette formule qui dit que nous aspirons à ce que l'humain ne soit plus le tueur de tout ce qui l'entoure, mais qu'il en devienne le tuteur. Si on devient le tuteur de toutes les autres espèces animales, ça veut dire qu'on va intervenir quand même, mais pas du tout pour exploiter, pour assouvir, pour torturer, mais au contraire pour prendre soin, comme je le disais. Ça veut dire, par exemple, s'assurer que les écosystèmes fonctionnent bien, que les populations d'animaux ne sont pas trop nombreuses dans certains endroits. On a déjà, aujourd'hui, par exemple, la contraception, la stérilisation, on les utilise déjà pour certains animaux.
Mais c'est l'apanage de beaucoup de militants, d'associations. Il y a du boulot, parce que la conscience animale chez les politiques, on parle de très 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 loin, Julie Bernier. C'est ça le problème aussi, pour répondre à Anne-Lise. C'est-à-dire qu'on est dans un monde que vous dépeignez, un monde que vous souhaitez idéal, mais qui mettra du temps à advenir. Et surtout, aujourd'hui, on n'a pas de prise de considération des politiques sur ce sujet.
Oui, totalement. En fait, déjà, je pense qu'on n'a pas de prise de considération, pas seulement des politiques, mais de tous. L'idée du livre aussi, c'était de montrer qu'on nous parle souvent des grands enjeux environnementaux, donc le dérèglement climatique, l'acidification des océans, la fonte des glaciers, etc. etc. Mais on est très loin de comprendre le lien avec nous, notre consommation quotidienne, et donc nos moyens d'action par rapport à ça. Exactement. Exactement. Le dérèglement climatique, il est lié à l'activité humaine, la fonte des glaciers aussi, etc. Ok, concrètement, comment ça se passe? Quel est l'impact de notre consommation? C'était l'idée du livre. Au-delà de ce changement quotidien qu'on va pouvoir opérer une fois qu'on a compris notre rôle là-dedans, il est clair que ce qu'on appelle le colibrisme, puisque, disons, l'action individuelle, ne sera pas nécessaire.
Comme le petit colibri qui, en cas d'incendie, met sa petite goutte pour faire sa part aussi.
Le côté chacun fait sa part, c'est très bien et ça responsabilise chaque citoyen. Mais on sait aujourd'hui que ce ne sera pas suffisant pour endiguer l'impact de notre consommation sans limite au cours des dernières décennies.
Mais vous sentez quelque chose autour de vous? Vous avez 23 ans, Julie. On a vu ce million de jeunes marcher pour le climat il y a quelques semaines. Ce mode vegan, pardon d'employer ce terme, mode, mais quand même, cette tendance en tout cas se développer chez les adolescents aussi, de plus en plus en tout cas en Occident. Vous sentez qu'il y a quelque chose, qu'il y a un mouvement qui se crée?
Oui, je pense qu'il y a cette vague citoyenne et effectivement, particulièrement dans ma génération. Mais aucun recours politique, en fait. On a eu cette histoire de grand débat. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer Monsieur de Rugy au ministère de la Transition énergétique. On était 100 à être là. Et très concrètement, quand on lui parle d'enjeux climatiques majeurs, d'effondrement potentiel, des limites de notre système économique, on nous répond que le gouvernement est en train de tout faire pour harmoniser la couleur des poubelles, pour que le tri se fasse plus facilement.
Ouais. On en est à la base. On est au Béaba.
Voilà. On est très loin des enjeux.
On a vu aussi l'échec d'un certain nombre de partis écologiques et écologistes, Émeric Caron. Alors parlons peut-être juste après la pause du parti animaliste, de la manière dont justement on essaye d'instiller un petit peu la réflexion sur le rapport au vivant, notamment dans les enjeux des élections européennes qui approchent le 26 mai prochain. On fait le tour de la question. Merci Annelise de votre appel. Noël sera avec nous dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Tiens, la question Facebook, j'en ai pas parlé encore.
Oui, et pourtant elle a été
On vous a demandé, perçu. Selon vous, notre mode de vie a-t-il un impact sur l'environnement et l'état de notre planète? Vous avez répondu oui à 92%. Sourire dans le studio de nos invités.
9500 votes, c'était beaucoup.
Ouais, 9500 votes. Quelques petits commentaires, tiens. Michel nous dit, oui, notre mode de vie a un impact. Même si l'homme n'est pas le seul responsable des cycles chaud-froid que connaît notre planète, pensez aux périodes glaciaires. Depuis, la Terre ne cesse de se réchauffer, et ce, bien avant que l'homme ne devienne l'homme industrieux, l'homo industrius.
Est-ce que je peux rebondir là-dessus ?
Julie Bernier.
Petite seconde. C'est vrai, mais en fait, il a fallu 100 000 ans de déglaciation pour augmenter la température moyenne de notre planète de 5 degrés. Et nous, si on continue comme ça, on va réussir à faire ça en moins de 100 ans. Donc effectivement, ce sont des cycles naturels, mais pas à cette vitesse-là.
Oui, que la main humaine accélère,
bien sûr,
en tout cas.
Bien sûr.
Un autre commentaire, Julie ?
Oui, Marie-Claude, oui, notre mode de vie a un impact donc sur l'état de la planète. Je réponds oui, mais dans ce oui, je parle de tous les humains de la planète Terre. Assez de stigmatisation de notre pays, nous faisons déjà beaucoup, il faut continuer, mais il faut arrêter de nous sentir coupables.
Alors, ce que vous
d'autres
pouvez
pays
faire
sur cette planète ne font pas le quart du dixième de ce que nous faisons en France.
Peut-être, mais ce que vous pouvez faire, c'est agir de manière vertueuse, penser de manière vertueuse pour tout, y compris quand vous vous coupez les cheveux. Alors ça, j'aime bien cet exemple. Julie Bernier, expliquez-nous.
En fait, c'est ce que disait Wendy, c'est vrai. En fait, dans chaque action de mon quotidien, je me dis, ok, comment je peux rendre mes actes vertueux et ce que j'ai fait il y a quelques mois, j'avais les cheveux très très longs et j'ai fait un don de cheveux qui ne m'a vraiment rien coûté, hein, de 40 cm de cheveux à une association. Ça fait partie des choses qu'on peut faire qui sont juste...
Quelle est cette association ?
Elle s'appelle Solidaire, solide apostrophe H-A-I-R.
Oui.
Et voilà, c'est très simple.
Ils en font quoi, gratuit, des cheveux ?
Alors eux, ils les vendent à des perruquiers et avec cet argent, ils rachètent des perruques pour les personnes atteintes de cancer. Une histoire familiale m'avait poussée à me dire que voilà, j'avais très envie de faire ça, de participer à cette cause.
Oui, parce qu'on n'a pas parlé du déclic justement de votre engagement aussi, Émeric. On connaît un petit peu son parcours, mais il nous le redira. Mais vous, ce fut un déclic aussi familial.
Familial, effectivement. En fait, moi, je me suis engagée sur ce terrain pour une question de santé. J'ai un frère qui a eu un cancer à l'âge de 20 ans, un lymphome. J'avais 17 ans à l'époque et un grand sentiment d'injustice, de ne pas comprendre pourquoi à 20 ans, en habitant en campagne, en mangeant bien, en faisant du sport, en ne fumant pas, en buvant très peu, il pouvait se retrouver dans cette situation-là. Et au final, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, tout notre environnement était fait pour que chacun d'entre nous ait un cancer à un moment ou à un autre, quoi. Donc, pour des questions de santé, je me suis dit, comment je peux changer mon alimentation ? Comment je peux me débarrasser des perturbateurs endocriniens qui sont dans les cosmétiques ou des produits toxiques qui m'entourent ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager vers ce mode de vie zéro déchet.
Et c'est pourquoi vous publiez ce manuel d'écologie quotidienne zéro déchet aux éditions Solar. Et la politique dans tout ça, Émeric Caron, parce que vos propos citoyens sont forts, on y adhère ou pas. Simplement, on se dit qu'évidemment, pour traduire cela en actes, il faut peut-être une structure, un parti, et puis instiller un petit peu le débat à la fois aux européennes, puis aux prochaines municipales. Vous avez créé un parti, d'ailleurs.
Oui, il y a un peu plus d'un an, on a créé un parti qui s'appelle le Rassemblement des écologistes pour le vivant, qui est le premier parti antispéciste en France, qui prône une écologie radicale, que j'appelle essentielle.
Et, vous avez combien de membres ?
On en est aujourd'hui à peu près 4 000 à peu près. Notre but aurait été d'être présent aux européennes, mais ça ne va malheureusement pas être possible pour une histoire de budget, tout simplement. Et ça interroge d'ailleurs notre démocratie en France, parce que, comme on le voit ce matin, les questions liées à l'antispécisme, au respect du vivant de manière radicale, sont des questions qui intéressent de plus en plus de gens. Et pourtant, aujourd'hui, pour présenter européenne, eh bien, il faut de l'argent, pas simplement des bonnes idées. Et par exemple, une campagne, c'est à peu près 5, 600, 700 000 euros.
Et vous n'avez pas pu associer vos principes à d'autres grands partis ?
On a essayé. On a eu des discussions avec un certain nombre de partis, avec le Parti Animaliste, avec Génération Écologie Delphine Bateau, avec le MEI d'Antoine Vecher. On a vraiment failli faire cette coalition pour proposer une écologie alternative à celle d'Europe Écologie Les Verts, dont Yves Cauchet lui-même, ancien ministre de l'écologie, reconnaît que malheureusement, elle n'a absolument rien fait avancer dans le champ politique depuis 20 ans. Malheureusement, ces négociations n'ont pas abouti. Le Parti Animaliste n'a pas voulu s'allier avec le Rêve. Et puis, on a constaté avec Delphine Bateau, qui aujourd'hui est à la tête de Génération Écologie, avec qui les discussions ont bien avancé, on a constaté que c'est compliqué quand même de faire vivre notre vision à nous d'une écologie, je vous le dis, extrêmement exigeante, qui remet en question complètement notre rapport, par exemple, à la chasse, à la pêche, etc. Et comme on n'a pas voulu non plus rogner sur notre radicalité, on a préféré ne pas être présent plutôt que d'aller faire une mauvaise campagne pour de mauvaises raisons.
Ouais.
Donc,
notre
prochain objectif, ce sera donc les municipales, dans un an.
Et là, il y a plus de sens, justement, à s'inscrire peut-être dans la proximité, en local, avec des missions extrêmement concrètes, des programmes extrêmement concrets.
Oui, alors la localité, bien évidemment, ça c'est un grand débat qu'on a aussi au sein de l'écologie, le rapport qu'on a entre localisme et mondialisme. Ce sont deux échelles qui vont ensemble, en fait, qui ne doivent pas s'opposer. Parce que, bien évidemment, il faut des actions locales en fonction d'endroits très particuliers, de situations particulières, mais il faut des politiques qui soient décidées non seulement au niveau national, évidemment, mais au niveau international.
Ouais, c'est-à-dire européen
entre les deux, absolument.
Il me semble que même le GIEC nous affirme que 60 à 70% des solutions capables vraiment de changer la donne en termes d'enjeux climatiques se trouvent au niveau local. Donc au contraire, très bien.
Mais c'est joli en plus, le Rêve, Rassemblement des écologistes pour le vivant, REV, voilà, le parti d'Émeric Caron.
C'est aussi le Rêve de Révolution.
Peut-être, oui, c'est ça aussi. Peut-être aussi au municipal en 2020. On fait encore le tour de la question avec Marc qui veut échanger avec vous, chers amis, depuis Sarrebourg au 39-21. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Gaspillage, surconsommation, excès de déchets. La prise de conscience est désormais globale et transgénérationnelle. L'écologie 2.0 continue d'étendre son réseau.
Oui.
Wendy Bouchard.
Mais le tout est savoir comment agir individuellement et quotidiennement avec la petite étincelle que vous allumez pour un grand feu. Julie Bernier notamment, Zéro déchet, c'est votre ouvrage, le manuel d'écologie quotidienne. Et Émeric Caron aux commandes le 3 juin prochain. Et on suivra tout ça de Komodo TV, nouvelle web TV consacrée au vivant sous toutes ses formes. Marc, bonjour à vous et merci de nous rejoindre sur Europe 1.
Oui, bonjour Wendy.
Bonjour Marc, vous nous appelez de Sarrebourg et vous voulez réagir à ce sujet.
Oui, je voudrais dire aussi bonjour à Émeric parce que je vous appelle de Sarrebourg, mais Émeric Caron me connaît de Strasbourg. Nous nous sommes rencontrés là-bas quelques fois.
Ah mais oui, je vois très bien qui vous êtes. Bonjour. Non mais c'est vrai en plus.
Bonjour Émeric.
Oui.
C'est gentil.
Et vous adhérez au positionnement, à la philosophie d'Émeric Caron telle qu'il la présente
Oui, très largement, la philosophie d'Émeric Caron, très largement, j'étais très sensible à ce qu'il fait, à ce qui, toute sa démarche, ça relève, bien sûr, à moi, de la politique aussi, très large du mot. Mmh. Et je voulais juste vous soumettre une petite réflexion qui a un caractère un petit peu ironique, je ne voudrais pas choquer personne, mais il y a le but de tout cela, c'est de respecter tous les êtres sensibles. Et donc, il y a un domaine où on traite un peu mieux les animaux déjà que les humains. C'est en fin de vie, les animaux chez nous ont droit à, éventuellement, quand c'est vraiment la fin de vie, à une euthanasie, c'est-à-dire à l'abrégement des souffrances, ce qui n'est pas encore possible pour les humains, d'une manière comme certains le souhaiteraient.
Oui.
Alors, c'est un peu ironique, je vous demande pardon de dire ça, mais ça illustre un petit peu ce respect de l'être sensible.
Oui, non, mais c'est intéressant, Marc. Ça veut dire, est-ce que l'antispécisme considère justement que ce que l'on applique aux animaux, abréger les souffrances, le droit à mourir dans la dignité, l'euthanasie doit être aussi applicable aux êtres humains?
Alors,
dans l'autre sens,
animaux,
donc.
J'apprécie beaucoup, Marc, effectivement, je croise à peu près une fois par an, lorsque je vais du côté de Strasbourg, on a parfois même des échanges par mail.
Oui.
Sur ce point, j'apporterai simplement une petite nuance à ce qu'il dit. C'est d'abord que la fin de vie des animaux dont nous avons la charge, en tout cas dont on s'occupe, enfin s'occuper, en tout cas ceux qu'on mène à l'abattoir, est souvent une fin de vie quand même assez triste, assez malheureuse. Alors c'est vrai qu'elle est... c'est une vie qu'on abrège nous, mais sauf que c'est une vie qu'on abrège alors que ces animaux sont encore en pleine santé. Donc déjà, c'est une énorme différence avec la question de l'euthanasie pour les humains. Et en ce qui concerne l'euthanasie pour les humains, évidemment, c'est pas parce qu'on est pour le respect de la vie. Moi, je dis toujours, on est pour le respect de la vie qui peut profiter d'elle-même, qui veut vivre et qui peut profiter d'elle-même. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça me paraît aberrant qu'aujourd'hui, en France, l'euthanasie soit toujours pas autorisé pour les humains qui en font le choix très clairement.
Ça fait partie aussi des questions soulevées dans le grand débat.
Moi, je crois que Marc, il parle pas d'animaux en pleine santé.
Ouais. Il parle d'animaux de compagnie.
Il parle des animaux de compagnie qui sont malades on abrège les souffrances.
Excusez-moi, vous avez raison, Julie. Vous avez raison, j'ai mal compris ce que disait Marc. Je comprends mieux en effet ce qu'il veut dire.
Et donc, pourquoi pas appliquer ça aux humains.
Alors Marc, comme d'habitude, on se retrouve, Marc. Pardon.
Ce qui compte, c'est l'aspect du vivant et du sensible pour vous. Est-ce que vous seriez prêt à voter pour un parti, par exemple le Rassemblement écologique pour le vivant, le parti animaliste, aux différentes élections qui s'annoncent, Marc ?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, parce que je pense que ça va tout à fait dans le bon sens. Et je crois que c'est un petit peu ma thèse. L'humanité va évoluer encore considérablement. On peut même pas savoir dans quel sens. Enfin, je veux dire, quelle vitesse plutôt. Mais je suis persuadé que nous évoluerons vers beaucoup plus de sensibilité, vers beaucoup plus de responsabilité dans ce sens-là, même à moyen et court terme.
Merci, Marc, de votre appel depuis Sarrebourg.
C'était, si je puis me permettre, et pour rebondir sur l'image, c'était la prédiction de Darwin, qu'il avait déjà écrit dans un livre qui s'appelle « La filiation de l'homme », donc à la fin du 19e siècle, où il avait effectivement déjà expliqué que la morale était une qualité apparue très récemment chez les animaux dits supérieurs, en tout cas dans le vocable de Darwin, et que la morale allait se développer de plus en plus. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Marc.
Le 6 mai, ce sera un lundi, nous recevrons d'ailleurs Christophe Marie de la Fondation Bardot et Pascal Durand.
Excellent choix.
D'Europe Écologie Les Verts, pour parler du Parti du Vivant, justement, et pour voir, en fonction des différentes listes présentes aux européennes, laquelle soutient un peu ces enjeux que nous avons mis sur la table aujourd'hui. Julie Bernier, je voudrais terminer avec vous sur 2-3 recommandations. Voilà, si on achète votre livre, on en aura bien davantage.
Oui, on avait commencé à parler des piliers du zéro déchet. Donc, il y a 5 piliers, donc refuser donc ce dont on n'a pas besoin concrètement, tout ce qui est superflu, jetable, tout ce qui est superflu, réduire notre consommation, réutiliser, c'est-à-dire éviter tout simplement que tous ces objets qui nous entourent terminent à l'incinération ou à l'enfouissement, donc rallonger le cycle de vie de ces produits, rendre à la terre, donc composter tout simplement tout ce qui est déchets organiques, à savoir que c'est environ un tiers de notre poubelle. Ces déchets organiques, c'est concrètement, les épluchures, les déchets verts, etc. Concrètement, ça, c'est des déchets qui sont composés d'eau et de nutriments. Et nous, on les envoie à l'incinérateur. Donc, on brûle de l'eau et des nutriments qui seraient vraiment nécessaires à la terre, puisqu'aujourd'hui, on a une érosion des sols qui est vraiment massive. Certaines terres qui sont entièrement mortes sur le globe. Et nous, on décide de brûler de l'eau et des nutriments. C'est vraiment aberrant. Et le dernier pilier, c'est recycler. À savoir qu'on nous a un peu dit que le recyclage, c'était un outil parfait et très écolo. C'est faux. Ce qu'il va falloir recycler, c'est ce qu'on ne peut ni refuser, ni réduire, ni réutiliser, ni rendre à la terre. À savoir que le recyclage nécessite beaucoup d'eau et d'énergie.
Oui. Et pour ça, il faut penser aussi dans la globalité, nos gestes du quotidien, notre action du quotidien, voilà, quand on achète, où
acheter
ça termine.
En vrac,
et, voilà, exactement. Mais on aura tout, si vous êtes intéressé par le sujet, dans Zéro Déchet aux éditions Solar. Un dernier petit mot de Maryse qui nous écrit de Dijon. Que donne M. Émeric Caron à manger à ses chats aux dernières nouvelles? Un chat mange de la viande.
Alors. C'est une vraie question.
On n'a pas une heure devant nous.
Les chiens, effectivement, on s'est rendu compte qu'on pouvait les rendre véganes, et les chats, c'est en étude, en transition. Donc, pour l'instant, les chats, on est encore obligés de les nourrir, effectivement, avec des matières d'origine animale. Donc, dans le système actuel, on fait comme ça. En revanche, vous savez, les espèces évoluent. C'est-à-dire que nous, par exemple, on n'est naturellement pas du tout disposés, les humains, à pouvoir digérer le lait en étant adultes. C'est-à-dire que c'est parce qu'un jour, on a décidé de faire l'élevage que tout à coup, notre organisme s'est mis à tolérer, à force de forcer notre corps à ingérer du lait, à tolérer le lactose en étant adulte. Parce que tout simplement, en principe, quand on est adulte, le gène de la lactase se désactive et on ne peut plus, en principe, digérer le lactose. Et bien, de la même manière, on peut tout à fait imaginer que de génération en génération, si on déshabitue petit à petit ces chats, à manger de la viande, peut-être à insérer de plus en plus de végétaux. On pourrait, pourquoi pas, imaginer rendre les chats, eux aussi, véganes dans des générations à venir.
En bon journaliste, vous n'avez pas été pris à dépourvu, vous aviez réfléchi aussi à ce type de
questions. En même temps, j'ai depuis à peu près une dizaine d'années.
La question est, vous avez un chat ou pas ?
Ah oui, j'en ai même plusieurs et je les adore. C'est ma famille.
Merci Aymeric Caron, Komodo TV, nouvelle web TV consacrée à l'antispécisme, le 3 juin prochain à retrouver en ligne. Et puis Julie Bernier, Zéro Déchet, le manuel d'écologie quotidienne chez Solar. Merci Julie.
Merci à vous.
À très bientôt. Les amis, nous on se retrouve dans un petit instant. On va parler des pervers narcissiques en question, pathologie psychiatrique, troubles de la personnalité antisociale. Vous avez peut-être vous aussi été au contact avec ces personnes toxiques. Eh bien, on en parle dans le détail avec des spécialistes jusqu'à 11h.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.